Un très bon début de semaine à vous tous et vous toutes. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission, Isabelle, avec vous pour les deux prochaines heures. La prochaine heure, on va la dédier à vos réticences face au vaccin. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez des craintes? Sont-elles justifiées? C'est un peu notre travail d'y répondre ce matin. On vous présentera des invités à l'instant. Également, en deuxième heure d'émission, conjoint de fait, couple marié, restez à l'écoute parce qu'en deuxième heure, on va se poser la question. Est-ce que les conjoints de fait devraient avoir les mêmes droits et obligations que les couples mariés? C'est notamment une des demandes de l'avocate bien connue, Maître Anne-France Goldwater, qui est avocate en droit de la famille. On attend toujours une réforme du droit de la famille au Québec. Ça devrait s'en venir bientôt. En attendant, c'est une bonne question de s'intéresser aux conjoints de fait et à leurs droits et responsabilités. Donc, ça sera à 11h05. Puis, bien sûr, on va parler de la Journée internationale des droits des femmes. En pandémie, les femmes sont plus pénalisées à tous les points de vue que les hommes. Je vais vous demander qui porte le poids de la charge mentale chez vous, là. Et justement, parce que c'est la Journée internationale des droits des femmes et non pas la Journée de la secrétaire, c'est pas le temps forcément d'amener votre blonde à aller manger au restaurant. C'est pas ce genre de journée-là, pour ceux qui sont pas sûrs, là. C'est plus une journée pour en profiter pour à nouveau discuter de ce qui devrait aujourd'hui être un fait, c'est-à-dire que les femmes sont égales aux hommes et qu'elles ont des droits équivalents. Entre autres, sur nos ondes radio, j'ai décidé au cours de la prochaine, des prochains deux heures de vous faire entendre des artistes exclusivement féminines. Alors, on aura des artistes féminines sur nos ondes pendant les deux prochaines heures et ça commence tout de suite.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you, hey.
Alors, c'est Cœur de Pirate, vous l'avez reconnu. Si vous avez des demandes spéciales d'artistes féminines, autrices, compositrices, interprètes, ne vous gênez pas. Vous pouvez m'appeler au 514-790-9850 ou surtout m'écrire à isabelle@985fm.ca. Je sais que vous avez beaucoup de craintes par rapport au vaccin, que vous avez beaucoup de questions par rapport à toute cette campagne de vaccination. On s'en a déjà parlé, vous et moi. Et ce matin, plus que jamais, à la lumière là, de je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, mais des grandes pages, entre autres dans le Journal de Montréal, dans Le Devoir, on voyait là, que le gouvernement, je pense, est conscient de ça, que son opération vaccination COVID-19 crée un certain nombre d'incertitudes et de questions. Et il y avait pleines pages. Je trouvais que ça faisait œuvre utile quand même parce que ça clarifie certaines choses. Il y avait des pleines pages là, sur justement qu'est-ce que c'est qu'un vaccin, à quel point la vaccination est-elle efficace, l'effet des vaccins. Bref, il y avait beaucoup de tentatives de réponse à vos questions. Je pense que c'est important d'y répondre. On l'a vu, même des professionnels de la santé qui sont réticents à se faire vacciner. Puis, il y a un auditeur, un jeune homme de 20 ans, qui m'a écrit pour me dire qu'il était très inquiet parce que sa grand-mère, de plus de 75 ans, refuse de se faire vacciner. Elle a même refusé à son mari d'y aller. Son mari, en fait, est allé, il était dans la ligne d'attente pour recevoir le vaccin en fin de semaine. Et elle l'a appelé en pleurs pour lui dire « Tu peux pas te faire vacciner, c'est important. » Il y a beaucoup de gens d'une certaine génération aussi qui sont très croyants, qui se font envoyer toutes sortes de messages reliés à la religion, comme quoi Dieu les aimera plus s'ils se font vacciner, qu'ils vont aller en enfer. Je vous le jure, là, ça va jusque-là. Là. Et ce jeune homme-là m'a envoyé toutes sortes de messages que sa grand-mère avait reçus avec une liste d'ingrédients même qu'on peut retrouver dans ces vaccins. Je vous lis un extrait là, d'un des courriels que la grand-mère a reçu. C'est quelqu'un, évidemment, une espèce d'anonyme qui renvoie beaucoup de courriels de médecins, évidemment, qu'on ne connaît pas. Et il dit, vous allez être bien informé des ingrédients de vaccin que des poisons. Et là, il fait la liste. Et il dit du E. coli là-dedans. Oui, vous avez bien lu. Une liste incroyable de toutes sortes de... d'ingrédients, appelons-les comme ça, là, qui sont injectés à vos enfants. Alors là, évidemment, ça crée beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes. Puis le jeune garçon me dit, qu'est-ce que je peux dire à ma grand-mère? Et c'est là où on se tourne vers nos invités. Le docteur Gaston Deserre va être avec moi pour les prochaines minutes. On va essayer, Gaston Deserre, de voir un peu comment rassurer ce jeune homme, comment rassurer les personnes âgées qui nous écoutent. Il est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec, professeur en épidémiologie à l'Université Laval. Bonjour, docteur Deserre.
Bonjour, madame.
C'est incroyable quand même ce genre de courriel. Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, au jeune homme là, qui s'inquiète pour sa grand-mère? Évidemment, la fin de l'histoire, docteur Deserre, c'est que le grand-père, finalement, il s'est pas fait vacciner devant les demandes de sa femme qui pleurait. Fait qu'il retourne à la maison, pas vacciné, plus de 75 ans. C'est un peu dommage, non?
Ah, c'est tout à fait dommage. C'est surtout dommage parce que, je dirais, dans ce que vous disiez, il y a des faussetés avérées, là. Je veux dire, il n'y a pas de E. coli dans un vaccin. S'il y avait ça, ça serait évidemment pas une bonne affaire du tout. Ça causerait des infections au site d'injection. Il n'y a pas de E. coli dans les vaccins. Le problème qui existe actuellement, c'est que il y a donc parmi la population des gens qui écoutent, je dirais là, différentes sources et qui disent, ouais, mais écoutez, si c'est sur Internet, des gens me le disent, et on retrouve du E. coli dans le vaccin, on retrouve ceci dans le vaccin, puis les gens croient ça, ben évidemment, c'est un peu difficile de détricoter ce que les gens croient ou ce qu'ils croient pas, parce que bon, moi, c'est sûr, ça fait 30 ans que je travaille dans les vaccins. C'est clair que du E. coli dans un vaccin contre la COVID, il n'y en a pas. Mais moi, je le sais, parce que je travaille là-dedans, je vois ce qui est écrit dans la monographie. On sait quels sont les produits qu'il y a dans les vaccins. On voit quelle est la sécurité du vaccin parce qu'on fait la surveillance des effets secondaires. On voit l'efficacité du vaccin parce qu'on fait la surveillance de la réduction de la maladie chez les vaccinés. Mais c'est certain que si les gens se disent « Ouais, mais moi, je crois pas ça. Je veux pas croire ça. » Ben parce que c'est soit une question de que quelqu'un d'autre en qui ils ont plus confiance leur a dit « Moi, j'ai peur de ça » ou « Tu devrais pas », comme dans l'exemple que vous avez cité. Ben évidemment, c'est un peu compliqué. Mais il y a clairement ici un cas de désinformation, donc d'information fausse. Et c'est malheureux parce que dans le cas que vous décrivez, effectivement, je dirais tant pour la dame que pour le monsieur qui n'ait pas été vacciné, c'est certainement les laisser à risque de complications si jamais il attrape la COVID.
Ouais, mais évidemment, ce sont des clientèles peut-être plus fragiles parce que plus inquiètes, plus à risque en tous les cas. C'est clair, là, après 12 mois de pandémie, on l'a beaucoup documenté, mais en même temps, parfois isolé. C'est plus difficile peut-être pour ces gens-là de faire la part des choses. Et l'inquiétude est souvent là, souvent présente.
Oui, mais je vous dirais, les personnes âgées ont pas le monopole de la désinformation. Il y a beaucoup de personnes plus jeunes qui entendent et répètent des choses fausses là allègrement. Et donc, c'est pas juste l'isolement, c'est le fait de... Écoutez, il y a beaucoup de monde qui disent « Moi, j'ai pas confiance dans les institutions. Je crois pas les médecins. Je crois pas le gouvernement. Je pense que c'est une bande de personnes qui sont pas là pour me défendre puis vouloir mon bien, mais qui sont là pour me jouer des tours négatifs. » C'est certain qu'à ce moment-là, les messages qui vont venir des médecins, de la santé publique, du gouvernement, ben les gens, ils les croiront pas. Maintenant, c'est certain que ça, c'est compliqué de gérer une situation comme celle-là, parce que effectivement, les vaccins, ça a quand même été là depuis des décennies une des choses qui a tellement changé le portrait des maladies infectieuses. Actuellement, on ne voit plus les catastrophes qui étaient causées par plusieurs de ces infections-là, mais ça a été vraiment une grande avancée. Bon, avec la COVID, on pourrait croire que, avec tout ce qu'on voit comme, je dirais, dommages causés par cette maladie-là, qu'il y aurait un appétit pour recevoir le vaccin. Mais là, c'est ça, il y a deux ou trois choses. Il y a une crainte de se dire, ben, le vaccin, il n'est pas sécuritaire. Alors que il faut que les citoyens sachent que il y a un système qui est en place et on reçoit de façon régulière des déclarations de la part des médecins parce qu'ils ont une obligation de déclarer à la santé publique. Les associations qui voient des gens qui présentent des problèmes de santé après les vaccins puis qui disent ouais, je pense que ça c'est peut-être dû au vaccin, ils doivent nous le déclarer pour qu'on puisse faire la surveillance et s'assurer que s'il y a un pépin, on puisse détecter ça très rapidement et ajuster les choses en conséquence.
Mmh. On a Simon qui est au bout du fil, justement. Vous pouvez nous appeler comme Simon au 514-790-9850 de l'extérieur partout au Québec, 1-866-790-9850. Est-ce que vous avez des réticences, Simon, face au vaccin contre la COVID? Simon, vous êtes là?
Oui, vous m'entendez?
Oui, on vous entend maintenant, oui. Allez-y. Est-ce que vous avez des réticences, parfait. Des questions?
Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, en fin de semaine, j'ai eu une discussion avec une personne de 75 ans, un notaire à la retraite, une personne qui a toute sa tête, une personne très intelligente, qui ne veut pas se faire vacciner parce que cette personne-là dit qu'on va se faire injecter une puce pour nous suivre à la lettre en même temps que le vaccin.
Ouais.
Puis j'imagine que si cette personne-là croit ça, j'imagine qu'il y en a plein d'autres qui croient ça.
Ben sincèrement, Simon, il y a beaucoup de gens effectivement qui l'ont repassé cette pseudo-information-là, comme quoi il y avait une puce, de la géolocalisation qui allait être possible après. Il y a toutes sortes de choses qui ont été dites là sur le vaccin. Peut-être Gaston Dessert là-dessus.
Ben, écoutez, je pense que c'est un bel exemple d'une situation où là, c'est quelque chose de complètement délirant. Et pourtant, il y a beaucoup de monde qui croit ça. Évidemment, là, de dire, écoutez, c'est pas vrai. Mais les gens, même si on leur dit que c'est pas vrai, ils vont dire, moi, mais je l'ai lu, il y a quelqu'un qui me l'a dit, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Vous, je vous fais pas confiance parce que si vous faites partie de la santé publique ou du gouvernement, vous êtes partie du complot qui veut justement nous jouer des tours puis nous jouer dans notre dos. Et donc, ce discours complotiste-là, il est, encore une fois, là, présent pour la crise actuelle. Il y en a qui disent, écoutez, il n'y a pas de problème avec la COVID. C'est inventé, cette histoire de COVID-là. Mais là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire rendu là? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, mais ça veut dire que la situation, elle va bien au-delà de juste, la confiance qu'on peut avoir dans les vaccins. C'est la confiance... En fait... On discute même plus des faits. On est dans des croyances qui sont souvent là, très retranchées, très fermes, mais pour lesquelles, évidemment, l'approche demande des efforts considérables pour réussir à modifier ça.
Effectivement. On va aller à la pause là-dessus. On va revenir, bien sûr, avec les questions de nos auditeurs. 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Le docteur Gaston Dessert est avec nous encore quelques instants. N'hésitez pas tout de suite après. On revient donc. On s'intéresse aux réticences que vous avez par rapport aux vaccins contre la COVID. Est-ce qu'elles sont justifiées? De quelle façon on peut se rassurer aussi avec ce que la science sait jusqu'à maintenant? À tout de suite, tout le monde.
Et s'il n'en restait qu'une pour bêtement tracer sur le sable des dunes, de cœurs entrelacés. Oui, s'il n'en restait qu'une pour l'amour grand format. Oui, s'il n'en restait qu'une, je serais celle-là.
Alors, on s'intéresse aux réticences des Québécois face au vaccin. Il y en a quand même beaucoup de gens qui posent des questions. Puis c'est tout à fait normal de s'en poser d'ailleurs. On essaye de voir avec le docteur Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec, de voir comment c'est possible de rassurer tous les citoyens là-dessus. Carole, vous avez une question, justement?
Oui.
Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute, Carole.
OK. Quand j'avais eu le H1N1, j'avais eu le vaccin.
Oui.
La seule affaire, j'avais mal au bras, aucun symptôme.
OK. À part une douleur localement.
Oui,
là.
Oui. Ouais. Ah oui, oui. Juste le bras, là. Puis là, mon employeur, il y a 7 magasins, puis qu'il y a une infirmière qui s'était déplacée. Fait que j'avais un rendez-vous pour la grippe, là.
Oui.
Oh mon Dieu, j'avais été malade pendant 2 semaines, ça avait été l'horreur.
OK. Donc, quand vous avez eu le vaccin contre la grippe, H1N1, puis finalement, oui, vous avez été très malade, vous.
Oui. Fait que là, je me demande, là, ça me fait pas d'avoir ce vaccin-là, là. Je sais pas, là.
Exact. Je comprends tout à fait. Beaucoup de gens... J'aime bien votre question, Carole. Merci beaucoup. Parce que, docteur Dessert, beaucoup de gens se disent ça. Et par rapport à notre expérience avec la H1N1 puis le vaccin, on est en droit de se poser cette question-là. Carole dit, bon, ben là, j'ai peur. Je vais-tu être aussi malade? Est-ce que ça va être les mêmes symptômes comme si j'allais attraper la COVID, finalement?
Ouais, bon, je pense que c'est sûr que si c'était des symptômes qui étaient aussi graves que ceux de la COVID, là, ça vaudrait vraiment pas la peine de se faire vacciner. Ceci étant dit, je pense que les problèmes principaux qu'on a avec le vaccin de la COVID sont ceux que vous avez mentionnés d'abord et avant tout, mm-hmm, des réactions au site d'injection. Donc le bras qui va être douloureux, ça, je pense que c'est clair que on voit ça avec ce vaccin-là, comme on le voit avec les autres. Les problèmes plus généraux, là, des gens qui présentent soit un petit peu de fièvre ou des douleurs musculaires généralisées, tout ça, ça arrive chez un petit pourcentage des gens. Et généralement, c'est de courte durée, c'est de moins de 24 heures. Donc, c'est pas quelque chose qui est ce que j'entendais de la personne qui appelle, là, d'avoir quelque chose qui dure pendant 2 semaines. Les vaccins donnent à peu près jamais des problèmes qui durent pendant 2 semaines. S'il y a quelque chose qui dure aussi longtemps que ça, ça a des chances de ne pas être le vaccin qui est le problème, mais ça peut être quelque chose qui a commencé en même temps que le vaccin. Mm-hmm. Alors, une des choses, c'est clair que le vaccin ne contient pas la COVID, ne contient pas le virus de la COVID. Il contient seulement une petite partie de ce qui permet de fabriquer la protéine qui est à la surface du virus et non pas le virus lui-même. Donc, on ne peut pas causer la COVID là, avec le vaccin.
Mais ça, c'est important ce que vous dites. Ça veut dire, à la question, est-ce que le vaccin contient un fragment de virus? Est-ce que c'est cette façon-là, comme par exemple pour d'autres vaccins où on inocule, par exemple, une partie de la maladie pour justement faire des anticorps? Là, dans ce cas-ci, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
C'est-à-dire que c'est bon, en fait, les vaccins à ARN, les vaccins de Pfizer et Moderna, ce qui est un peu différent des autres vaccins, je dirais, plus traditionnels, c'est que dans les vaccins plus traditionnels, on va utiliser effectivement la protéine. Mm-hmm. On va prendre une partie, donc, du virus, qui est la protéine de surface, et on va la montrer à notre système immunitaire, qui, là, va développer des anticorps, puis des mécanismes pour nous défendre contre une prochaine infection. Dans le cas des vaccins à ARN, c'est que au lieu de montrer la protéine elle-même, on va injecter ce qu'on appelle de l'ARN, qui est donc le message qui permet à la cellule de fabriquer la protéine. Et là, la protéine qui est fabriquée va être montrée à la surface de la cellule. Et là, notre système immunitaire va dire, oh, ça, cette protéine-là, il faut qu'on apprenne à s'en défendre. Mm-hmm. Donc, au lieu de présenter directement la protéine, on passe par un mécanisme qui fait que la cellule va fabriquer la protéine de surface du virus, mais d'une façon qui devrait être plus stimulante pour notre système immunitaire et donc faire qu'on ait une meilleure protection. Ouais. Alors ça, c'est la différence de ces vaccins-là qui sont le vaccin de Pfizer et de Moderna.
Il y a eu une étude qui a été faite par l'Université Laval dernièrement, là, où on voyait qu'il y avait presque 40% des Québécois adultes qui pourraient renoncer à leur deuxième dose de vaccin si les effets secondaires sont importants dès la première injection. S'ils ont des effets secondaires après la première dose, ben, il y en a 40% des citoyens du Québec qui disent ben là, je n'irai peut-être pas pour ma deuxième. Et là, les chercheurs disent qu'il faut vraiment, vraiment que la santé publique s'intéresse à ça. On ne peut pas ignorer que presque 4 personnes sur 10 qui se fait vacciner pourraient ne pas avoir de deuxième dose. Comment vous voyez ça, vous?
Je pense que c'est sûr que quelqu'un qui aurait des gros effets secondaires à cause d'un vaccin, que cette personne-là se pose des questions, c'est pas surprenant. Maintenant, je pense que c'est un peu là le point d'ailleurs de ces chercheurs-là, de dire, écoutez, ce qu'on a comme effet secondaire des vaccins contre la COVID, c'est des effets comme on voit avec d'autres vaccins, mais pas plus graves. Évidemment, d'avoir mal au niveau du bras où on a reçu l'injection, c'est quand même pas agréable, mais c'est pas dramatique non plus. Les douleurs musculaires, la fièvre, ça arrive chez un tout petit pourcentage des gens, c'est de courte durée. je dirais, c'est évidemment pas plaisant. Puis si on était capable d'avoir des vaccins qui causent aucune de ces difficultés-là, ça serait mieux. Mais ceci étant dit, par rapport à ce qu'on va éviter comme maladie, évidemment, le bénéfice est très, très en faveur de recevoir le vaccin et la deuxième dose de vaccin. Alors, je pense que oui, c'est désagréable d'avoir des effets secondaires, mais non, ils sont pas graves et ils sont pas de longue durée. Et je pense que dans cette étude-là, les gens disaient, ouais, ben peut-être que j'y repenserais. Mais il faut voir, est-ce qu'ils ont imaginé le scénario où là, il y aurait quelque chose de grave et pénible, ou est-ce qu'on parle des problèmes plus légers pour lesquels, bon, évidemment, on n'aime pas ça, mais on est capable de les tolérer, puis là, d'avoir la deuxième dose devient beaucoup plus acceptable.
Mm-hmm. En même temps, êtes-vous d'accord que le gouvernement doit tout faire en son pouvoir pour rassurer les Québécois, parce que c'est un élément de considération important pour la campagne de vaccination là, qui débute de ces jours-ci, pour que ça soit réussi. Parce qu'on nous le répète, hein, il faut qu'il y ait quand même le plus grand nombre qui se fasse vacciner pour qu'on puisse tourner le dos à cette pandémie. S'il y a plus d'inquiétudes que de gens qui se font vacciner, on a un problème, là, Dr. Dessin.
On a un vrai problème, puis je pense que vous avez tout à fait raison. Il faut absolument que le message pour encourager les gens à se faire vacciner et pour les rassurer sur le fait que, justement, le vaccin, actuellement, il a été donné à des dizaines de millions de personnes. On voit comment les gens répondent au vaccin, tant en termes de sécurité, donc on n'a pas d'effets secondaires graves qui étaient inattendus, qu'on n'avait pas vu venir. Et on voit aussi très bien l'impact en termes de réduction actuellement de la maladie. On regarde ce qui se passe dans les CHSLD, le nombre de patients, de résidents qui sont devenus malades dans les dernières semaines, c'est tombé à presque rien. Chez les travailleurs de la santé qui ont été vaccinés, ils ont réduit leur risque de faire la maladie de 5 fois. Ouais. Ils ont une efficacité de 80%. C'est considérable.
Ben merci beaucoup, Dr. Gaston Dessert. Il est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous ce matin. Je pense que ça fait œuvre utile que de répondre aux questions des auditeurs. Merci beaucoup, Dr. Dessert.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir,
on va s'arrêter ici. Très courte pause. On a plusieurs auditeurs qui veulent intervenir, poser des questions. Je vais vous présenter tout de suite après la pause Mark Hamilton. Vous le connaissez bien, il est microbiologiste. Il va pouvoir également répondre à vos questions. Restez là, tout le monde.
Je veux tout. Toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici.
Demande de Carole qui voulait vraiment entendre Marie-Carmen. Dans vos demandes spéciales, on vous fait entendre des voix féminines tout au cours de cette émission. Tout à l'heure, il y a Cathy qui m'a demandé une mère de Lynn Delemay. Moi, je pense qu'on va devoir la faire jouer d'ici la fin de l'émission. Avec nous, Jo, on se pose des questions là, sur vos réticences par rapport au vaccin. Bonjour, Jo.
Bonjour, mes réticences. En 20 secondes, j'en ai 3 et c'est très rapide. Oui. Première affaire. Mm-hmm. OK. Un vaccin qui a moins d'un an. J'ai peur des effets à long terme.
Parfait.
C'est pas comme c'est pas comme un vaccin qui a 20, 30, 40 ans. Première affaire. Okay. Deuxième affaire, le docteur Anthony Fauci aux États-Unis dit, faites-vous piquer. Peu importe la compagnie, faites-vous piquer. J'aimerais savoir quel vaccin qu'il conseille à sa propre famille, à lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Mm-hmm. Et troisièmement, le fait, et ça, je dois valider, mais je suis presque sûr de l'information, le fait qu'on ne puisse pas poursuivre les compagnies pharmaceutiques. Voilà.
Okay.
S'il arrive quelque chose, s'il arrive quelque chose de grave avec un des vaccins et que c'est prouvé, il paraît qu'on ne peut pas les poursuivre. Alors,
Voilà. Je ne sais pas si on peut pas, mais en tout cas, j'aurais envie de vous dire faire la collection de vos piastres, parce que poursuivre une compagnie pharmaceutique, ça coûte de l'argent. Fait que j'aurais envie de vous dire, il faudrait vraiment que ça soit une grande action collective. Là. Bon, voilà. Joe, ça fait beaucoup de questions. Vous comprenez que le docteur américain, on ne peut pas y demander, nous, ce matin, mais une chose est sûre, c'est que le premier point, est-ce que c'est un vaccin trop jeune pour qu'on puisse lui faire confiance? Je vais retenir cette question-là, vous me permettez, Joe, puis je vais la poser à notre invité, Marc Hamilton, microbiologiste. Bonjour, Marc. Le vaccin, on le sait, c'est un vaccin différent des autres, des vaccins plus traditionnels. Le docteur de Serre nous l'expliquait avant la pause. C'est un jeune vaccin aussi qui a été fait rapidement, je rajouterais. Est-ce que ça peut être un sujet d'inquiétude? En tout cas, ça l'est pour Joe. Est-ce que ce serait une raison de s'en inquiéter?
Ben écoutez, si on regarde un peu la composition du vaccin ARN messager, on sait que c'est une nouvelle technologie qui existait auparavant pour d'autres types d'utilisation. Mais il reste que c'est un vaccin qui, lorsqu'on injecte, il y a très peu de composantes qui est injectée. On parle d'une, comme un peu le docteur Dessal l'a très bien décrit avant moi, une infime partie du virus dans une enveloppe de graisse qui le protège, et on l'injecte et le système immunitaire va être provoqué par cet ARN messager-là. Donc, il y a, je dirais que si on regarde scientifiquement ce qui nous est injecté dans le bras, il y a très, 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 très faible chance que ce vaccin-là nous donne des effets secondaires à long terme, voire des maladies qui pourraient se déclencher plus tard ou quoi que ce soit. On injecte, c'est pas un virus désactivé. C'est, écoutez, moi, à mon avis, la manière qu'il est fait, les probabilités que dans un an, 5 ans, 10 ans, il dit, oups, j'ai une maladie qui a été créée parce que j'ai été injecté par la COVID, sont très, très peu probables là, au niveau de la composition du vaccin comme on l'a présentement.
Bon, je ne sais pas si ça rassure Joe, mais en tous les cas, c'est une réponse un petit peu rassurante tout de même. On a, y a quelqu'un ici qui me dit, est-ce que le vaccin est vivant? C'est intéressant comme question, ça.
Mm-hmm. Non, ce n'est pas le vaccin, il n'est aucunement vivant. D'ailleurs, il n'y a pas de vaccin communément comme on connaît aujourd'hui qui est vivant. On est ce qu'on appelle, mettons, on comprendrait le vaccin chinois, là, le Sinovac. Là. Uh-huh. Ça, c'est un vaccin qu'on appelle désactivé. Donc, c'est comme le vaccin de la COVID qu'ils ont modifié pour le désactiver et il vous injecte, si on veut, le potentiel génétique de la COVID, mais il est désactivé dans le sens que même si le vaccin circule en dedans de vous, mais le virus circule d'une manière désactivée en dedans de vous, il n'est pas vivant, de sorte ne déclenchera pas la maladie. Mais on n'envoie jamais un vaccin vivant, peu importe la manière qu'il est fait dans une personne.
On a Gilles qui est au bout du fil. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour. Moi, j'ai une maladie pulmonaire, l'hypertension artérielle pulmonaire, et je prends l'oxygène présentement, 24 heures sur 24. Est-ce que le fait de prendre un vaccin, ça peut être contre-indiqué il y a des études qui ont été faites sur des gens qui ont une maladie, puis ils savent déjà si c'est il n'y a pas de problème ou sont dans l'inconnu, et puis je vais servir de cobaye, quoi.
Merci, Gilles, de votre question. Marc Hamilton?
Bien, on sait que les études cliniques phase 1, 2, 3 n'ont pas été réalisées sur des gens qui avaient des complications, des facteurs de comorbidité importants ou des gens qui avaient des obstructions ou des maladies MPOC qu'on appelle au niveau pulmonaire. C'est évident que c'est vu du cas par cas et c'est vraiment votre médecin ou via du moins les études qui ont été faites en parallèle avec des gens qui ont été vaccinés qui ont ce facteur-là que vous avez qui va être en mesure de dire, bien, écoutez, est-ce que le vaccin est pour moi, la réponse, je dirais, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit bon pour vous, là, honnêtement, parce que je ne crois pas que ça peut vous nuire. Mais honnêtement, il faut consulter votre médecin ou les autorités qui prescrivent le vaccin, à savoir si vous êtes assujetti à. Mais je ne crois pas que ce soit une contre-indication.
Ouais, merci beaucoup. Il y a Daniel qui dit, moi, ce qui m'inquiète, c'est les OGM dans le vaccin de Moderna, le polyéthylène glycol dans le vaccin Pfizer. C'est pas bon dans les cosmétiques, ça doit pas être bon dans un vaccin. La composition du vaccin, là, on en parle de plus en plus. Hein. Je disais ce matin, Mark Hamilton, qu'il y avait même un jeune homme qui m'avait écrit puis qui m'avait envoyé là, ce que recevait sa grand-mère comme message Internet, puis qu'elle était affolée. Là. Elle était carrément terrorisée. Elle est convaincue là, qu'on y injecte du poison, donc elle veut pas se faire vacciner. Elle a plus de 75 ans. Le grand-père, elle l'a intercepté juste avant qu'il reçoive le vaccin. Elle l'a appelé en pleurant. « Te fais pas vacciner, ils vont te donner la mort. » C'est épouvantable quand on y pense. Puis j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ben oui, mais il y a beaucoup d'ignorants. » Je pense qu'on peut pas ignorer ce qui se passe non plus. Et les réseaux sociaux deviennent une source. Là, je vous dis, là, depuis une demi-heure, je reçois juste des messages de « Fais tes recherches. » Comprenez, ça devient là, un groupe important qui est capable d'avoir beaucoup d'influence sur des clientèles déjà à risque.
Arrêtez-moi ces légendes urbaines-là. Écoutez, si on se met à regarder tous les ingrédients de ce qu'on consomme dans une journée, prenez le temps de regarder là, tous les produits chimiques qu'on a, les agents de conservation dans les aliments et quoi que ce soit, puis prenez le temps de dire, est-ce qu'il y a un danger que je consomme trop de nitrate, que je consomme trop de benzoate, est-ce que je peux mourir de ça un jour? Il y a toujours le côté fataliste. De juste prendre l'exemple, je prends des Tylenol. Regardez juste l'effet secondaire des gens qui prennent des Tylenol à long terme. Il y en a 2-3 pages. Donc, écoutez, un vaccin, on l'a pas à chaque année, on l'a pas à chaque jour. On l'a lorsque c'est nécessaire et là, ce temps-ci, c'est les pandémies. Mais écoutez, là, le peu de produits qu'il peut y avoir dedans, puis j'ai pas la liste, puis je suis pas un expert en chimie non plus là, pour vous dire si c'est dangereux ou pas, mais c'est des particules, c'est des nanoparticules, c'est des microgrammes, c'est des infimes parties qu'on peut avoir peut-être 5-6 fois dans notre vie. Mm-hmm. Donc, je ne crois pas que ce soit un danger de dire je me fais injecter, puis j'ai une infime partie de formaldéhyde ou peu importe le produit chimique qu'on peut avoir. Pour moi, c'est très négligeable là, de penser qu'il y a un danger associé à ça. Il y en a, moi, je ne vois pas de danger pour ces infimes partie de produits chimiques qu'on peut mettre là, pour dissoudre, si on veut, le vaccin.
Mm-hmm. On a Micheline qui est avec nous. Bonjour, Micheline.
Oui, bonjour. Moi, j'ai 75 ans. J'habite la Rive-Sud, donc c'est pas commencé la vaccination. Mais quand ça va commencer, ce qui me fait peur, c'est pas Pfizer ou Moderna, c'est l'Astra, je sais pas trop. Là.
AstraZeneca. AstraZeneca.
Ouais. Si Santé Canada dit en haut de 65 ans, c'est pas bon. Mais Dr Arruda, lui, ça avait pas l'air à le déranger trop. Ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, ça.
Très bonne question, Micheline. Sur AstraZeneca, ben, on en apprend plus de jour en jour, d'ailleurs, Mark Hamilton. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce vaccin?
Ben, on sait que la France et l'Allemagne l'ont carrément proscrit, si on veut, pour les personnes âgées, je pense des 70 ans et plus, que tout le genre, ils l'ont enlevé parce qu'il cause plus d'effets secondaires, autement dit, plus notoires. Donc, autrement dit, les gens vont développer des symptômes un peu plus associés à la grippe, la fièvre, que les personnes âgées, ben, sont peut-être un petit peu plus fragilisées par ça. Il y a certaines études qui disent aussi que le vaccin serait moins, il y aurait moins d'immunité qui serait potentiellement produite par le vaccin d'AstraZeneca. Mais qu'il y a d'autres études qui disent que c'est tout à fait faux, il faut l'utiliser, il n'y a pas de contre-indication pour les 65 ans et plus. Donc,
mais justement, c'est ça, parce que j'ai lu beaucoup de choses en fin de semaine, justement, sur les différents types de vaccins, Mark Hamilton. AstraZeneca, on disait qu'au début, c'était 67 %. J'ai lu en fin de semaine que finalement, ça serait beaucoup plus dans les 75 et que même Pfizer, qu'on disait au début, à plus de 90, qui serait moins effectif. En fait, qu'il y aurait moins d'effets, qui protégerait moins. Puis là, il y a celui de Johnson & Johnson qui arrive, où là, c'est qu'une seule dose et qui serait tout de même assez, qui protégerait bien à plus de 72 %, ou à peu près 72-73 %. Fait que là, on essaye de trouver la vérité là-dedans. Puis les gens me posent beaucoup la question, puis ça fait plusieurs fois, puis on connaît la réponse, c'est-à-dire non, on peut pas choisir son vaccin, mais en même temps, est-ce qu'on devrait avoir des inquiétudes par rapport aux différents types de vaccins?
Honnêtement, d'avoir des statistiques au-delà de 70, 80, 90 %. Il faut penser une chose, là, c'est qu'il n'y a pas un vaccin qui va donner le même résultat d'un individu à l'autre. Il y a des gens qui vont avoir 100 %, d'autres vont avoir 70, d'autres qui ne fonctionneront pas du tout. C'est une moyenne sur les 10 %.
Ouais.
Et là, sur les 10 %, c'est excellent. Quand on sait qu'un vaccin de la grippe conventionnelle, le fameux vaccin qu'on recommande annuellement, on a de la misère à aller chercher 50 % d'une année à l'autre. Il y a des années que c'est à 30 % des années à 50, 60. D'avoir une moyenne, peu importe le type de vaccin, au-delà de 70 % c'est excellent. Donc, au moment où on se parle, c'est important de se faire vacciner, peu importe le vaccin qu'on aura choisi. L'important, c'est de créer le plus rapidement possible cette immunité collective qu'il nous faut là. Et à 70 % de protection minimale généralisée, c'est excellent.
Mm-hmm. Ah, c'est intéressant. Il y a Marco qui m'écrit à l'instant. Moi, je vais me faire vacciner seulement si j'ai une récompense, comme plus de masques, puis à nouveau, on déconfine et on retrouve notre liberté. Ben Marco, j'ai envie de vous dire, c'est ça le but, en fait, de la vaccination. C'est de pouvoir tourner le dos à la pandémie, n'est-ce pas, Mark Hamilton?
Ben absolument. Je pense que la vaccination, avant d'enlever le masque et de crier victoire, il faut aller chercher cette fameuse immunité-là. Donc, je pense que présentement, le gouvernement fait bien les choses en vaccinant et d'un, les endroits les plus à risque. On sait que la vaccination est plus massive dans le coin de Montréal parce que c'est rouge. Et aussi d'aller vers les personnes les plus à risque. On le voit là, qu'on a commencé par les CHSLD, les personnels soignants. Après ça, on voit les 80, 70 et on descend en groupe d'âge. Et c'est ce qu'il faut faire. Et si on veut aller chercher la paix, si on veut dire hey, j'ai plus de masque, je me promène libre je peux serrer les mains aux gens, mais il faut aller chercher ce fameux 65-70% de la population qui aurait été immunisée. Et après ça, on pourrait dire « Hourra! » La vie reprend comme avant. Donc, il y a encore un peu d'effort à donner là, en termes de vaccination dans les prochains mois pour atteindre cette immunité-là.
Mm-hmm. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient tout de suite après ceci.
Une mère, ça fait ce que ça peut. Ça ne peut pas tout faire. Mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère.
Carole m'écrit qu'elle a 73 ans. Elle a décidé de ne pas recevoir le vaccin COVID-19 tant qu'elle n'aura pas l'assurance de recevoir la deuxième dose avant 42 jours et de pouvoir choisir soit le vaccin Pfizer ou le Moderna. Elle dit « Ça fait un an que je prends soin de ma santé et de celle de mes proches, alors je peux continuer encore un petit bout. » Alors, je trouvais que c'était intéressant le message de Carole parce que justement, Guylaine nous appelle. Elle est infirmière vaccinatrice. Bonjour Guylaine.
Bonjour, Mme Maréchal.
Bon, le 73. Oui, Carole a 73 ans. Elle a dit, moi, si, pas de vaccin tant qu'on ne m'assure pas une deuxième dose rapidement. Puis, elle veut choisir son vaccin aussi. Là. Comment ça marche, Guylaine? Il y a beaucoup de gens là, qui veulent choisir leur vaccin. On sait que ça ne marche pas comme ça. Là, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous le demandent?
Jusqu'à maintenant, pas tant. Par contre, je ne suis pas la meilleure personne pour vous répondre parce que les vaccins, la façon que ça fonctionne, ils arrivent au niveau de la direction de la santé publique de la région. Mm-hmm. Ensuite de ça, ils sont distribués dans les centres de vaccination et vraiment, si on a 202 personnes à vacciner, on va avoir 202 doses.
Okay.
Donc, je ne peux pas vraiment vous répondre sur la question du choix du vaccin et de du délai entre les deux doses. On sait qu'avec le vaccin Pfizer, il y a un délai minimum à respecter qui est de 21 jours.
Ouais.
Mais il n'y a pas de délai maximum actuellement.
Ouais. Est-ce que les gens, quand vous les vaccinez, est-ce qu'ils posent des questions? Comment ils sont? J'imagine qu'il y a un peu de nervosité parce que de toute façon, quand on se fait piquer, on n'aime pas ça. Hein? Est-ce que vous avez besoin de les rassurer beaucoup?
Ben, en fait, moi, j'ai fait les RPA, les résidences personnes âgées.
Oui.
Et puis, dans ma région, les gens nous attendaient avec impatience.
Ouais, mais ça, c'est bien.
Donc, ils étaient pas très inquiets. Il y en a quelques-uns qui posaient des questions au niveau des effets secondaires qu'on leur explique de toute façon. Et puis, la majorité, par exemple, non, il y a une personne sur peut-être 500 qui a refusé.
Ah ouais.
C'est tout. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, là-dessus, non. Maintenant, moi, j'avais deux questions pour M. Hamilton.
Oui.
C'est au sujet, quand on administre le vaccin, avant, on pose des questions aux gens. À chaque personne à qui on donne le vaccin, on leur pose des questions. Une de ces questions-là, c'est est-ce que vous prenez des médicaments pour le système immunitaire, donc des médicaments immunosuppresseurs? Je voudrais savoir, quand les gens nous répondent oui, c'est quoi? Y a-t-il des contre-indications? Parce que c'est des situations embêtantes pour nous, ça. Parce que les gens sont tous prêts à être vaccinés. Et là, on leur pose la question. Oups, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ensuite de ça, les gens qui ont des traitements de chimiothérapie ou qui prennent des médicaments pour éclaircir le sang.
Mmh.
Et les femmes enceintes ou qui allaitent. On n'en a pas encore eu, mais ça va venir, ça, dans le groupe. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Et vous n'avez pas cette information-là? Ces informations, ces questions-là sont pertinentes. Guinette, vous ne les avez pas, les infos de la part de la santé publique?
Non, j'ai eu une formation que j'ai suivie là sur pas sur Zoom mais Internet, bref. Ouais. Mais ça spécifie pas, ça dit pas que il faut pas, c'est pas clair. Ils disent pas, ça dit pas faut pas le donner, on peut le donner dans quelles circonstances. Donc ça c'est un peu embêtant pour nous quand on vaccine.
Ouais, merci Guylaine de vos questions puis de
ça me fait plaisir.
Marc Hamilton, qu'est-ce qu'on peut dire à cette vaccinatrice?
Premièrement, pour les femmes enceintes, c'est vraiment le dernier groupe qui sera vacciné. Là, à date momentaine, on veut voir ce qui va se passer avant, mais je pense que les femmes enceintes, ce ne sont pas le clientèle qui est ciblée par la vaccination, parce que comme vous le dites, quand toutes les études de phase 1, 2, 3 ont regroupé des gens en santé, des gens entre 18 ou 16 ans jusqu'à, mettons, 70 ans. Et quand on regarde des cas de figure, quelqu'un qui me disait l'autre jour que j'ai pas de rate, est-ce que je peux me faire vacciner? Ben, la réponse, c'est parle-en avant, parce que faut être certain que qu'il y a eu quand même un peu d'écrit là-dessus, des études qui ont été faites qui prouvent qu'une personne immunosupprimée profonde, quand c'est qu'il y a des cancers, qui combat un cancer ou qui prend des cocktails de médicaments là pour justement là, soit diminuer l'immunité ou augmenter l'immunité, ben ça c'est des questions qui à mon avis doit être documentées, doit être et je pense aussi que la question que je pourrais demander à la dame, est-ce qu'il y a déjà eu des refus suite à quelqu'un qui crie oui, je prends un cocktail de médicaments. Est-ce qu'on la vaccine quand même, cette personne-là, ou non? Ça, c'est une question que je pourrais lui poser.
Oui. Guylaine, d'ailleurs, vous êtes toujours là?
Oui.
Ouais, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là quand quelqu'un répond?
Ben, jusqu'à maintenant, la seule contre-indication qui nous a été donnée, c'est les chocs anaphylactiques qui ont lieu, les chocs très graves.
Voilà. Bon, mais merci. Puis je tiens à dire, Guylaine, elle est vaccinée. Merci beaucoup, Marc Hamilton. On aura l'occasion de se reparler. On s'arrête ici. Nouvelle, on va parler des conjoints de fait après.